Face à l'urgence sanitaire, les hôpitaux publics et les cliniques privées ont-elles enterré la hache de guerre ? Ont-ils enterré la hache de guerre ? Quelle articulation en Occitanie entre le public et le privé dans la gestion des patients atteints de Covid-19 ? Ce sont ces questions que nous allons nous poser ce matin. Et pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Madeleine Croutebail. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous donner quelques minutes de votre temps qu'on imagine évidemment très précieux par les temps qui courent. Hein. Vous êtes anesthésiste, réanimateur à la clinique Pasteur. C'est, je crois, l'une des plus grosses cliniques de Toulouse avec comme spécialité la chirurgie cardiaque. Hein. C'est bien ça, docteur ?
Oui, tout à fait. La chirurgie cardiaque, tout ce qui est activité cardiologique.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire combien de patients Covid vous avez actuellement hospitalisés dans cet établissement qui est donc la clinique Pasteur ?
Alors, actuellement sur la clinique, nous avons 5 patients hospitalisés dans une unité de réanimation, 6 patients hospitalisés dans une unité de surveillance continue, de soins intensifs, ce sont des patients un petit peu moins graves, et 8 patients hospitalisés dans des services de médecine, des patients sans forme grave de Covid. Et on a aussi une cinquantaine de patients hospitalisés dans notre service d'hospitalisation à domicile.
Tous ces patients que vous nous avez donnés dans le cadre du Covid-19, hein ?
C'est que des patients Covid, là, oui.
58, donc ça fait à peu près 70 patients qui sont concernés par la pathologie du Covid et qui sont actuellement dans votre établissement. Alors évidemment, cette question, docteur, elle vient en écho à la polémique qui a eu lieu, notamment pendant la première vague, mais ce n'est pas la première fois qu'il y a une polémique qui touche le public et le privé. Je vais la résumer grossièrement. Le public a accusé le privé de ne pas prendre sa part dans la gestion du Covid. Ça, c'était pendant la première vague. Le privé a, quant à lui, reporter d'une certaine manière la faute sur l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui aurait tardé à donner l'autorisation administrative. Alors d'abord, vous allez nous dire si les choses se sont réellement passées comme ça, peut-être qu'il y a des choses à rectifier, et puis comment et en quoi elles sont différentes aujourd'hui.
Alors, les choses sont peut-être passées comme ça dans d'autres régions lors de la première vague. Pour nous, en Occitanie, ça n'a pas été le cas. L'ARS a d'emblée rassemblé les acteurs du privé et du public pour ce qui est des activités de soins critiques, donc de réanimation. Nous avons été réunis très tôt, c'était le 10 mars, pour, si je me souviens bien, dernier. Et d'emblée, à l'issue de cette première réunion, nous avons décidé de gérer cette crise ensemble et avec une participation de tous les acteurs publics-privés dès le premier jour. L'ARS nous a soutenus dans cette démarche et voilà. Et le dispositif donc de coopération est toujours en place depuis le 1er mars.
Et je pense qu'on est
une des rares régions sûrement de France à avoir fonctionné comme ça sur la première vague. Je pense que pour la deuxième vague, il y a d'autres régions qui ont pris ce mode de fonctionnement.
Voilà, donc l'occasion d'un petit cocorico, hein, l'Occitanie moteur ouais. Et pilote sur cette belle coopération. Donc les images de cliniques ouais. Vides, les patients, les médecins désolés de n'avoir personne, c'était pas chez vous, pas en Occitanie en tout cas. Hein.
C'est ça, c'était pas chez nous.
Et alors, aujourd'hui, la coopération, donc vous nous dites, est en place, effective, comme ça a pu être le cas pendant la version 1, si je puis m'exprimer ainsi, du ouais. Covid. Toutes les cliniques privées accueillent aujourd'hui, je crois qu'il y en a une centaine sur la région, accueillent des patients Covid à tous les stades.
Alors, les cliniques privées sont toutes mobilisées. Celles qui ont des services de réanimation ou de soins de réanimation ont été mobilisées d'entrée depuis le départ. Et sur la deuxième vague, comme on assiste quand même à beaucoup d'hospitalisations hors soins critiques, l'ensemble des établissements privés se sont mobilisés pour admettre des patients Covid dans leurs établissements. Ceux qui n'ont pas de réanimation admettent des patients Covid en forme pas grave à une hospitalisation conventionnelle. Mais tous les établissements participent. Sur Grand Toulouse, toutes les cliniques font partie du dispositif. Et dans les départements aux alentours, c'est la même chose. Dans le Tarn et Garonne, toutes les cliniques participent.
Alors, le ministre de la Santé, Véran, hein, nous donne souvent ce chiffre de 5000 lits de réanimation passés avec beaucoup d'efforts à 9000 lits. Est-ce que dans son comptage sont comptabilisés les lits apportés par les cliniques privées ?
Je ne connais pas les chiffres exacts, hein, mais de réa en France. Il me semble que oui, avec prudence, parce que je ne connais pas les chiffres de la France entière. On n'a pas d'accès comme ça aux chiffres de tous les départements. Voilà. Moi, je connais les chiffres pour d'autres régions ex-Méditerranée.
Et alors, quels sont-ils pour la vôtre ? Quel est l'apport du privé ?
Alors, nous, en capacitaire sur Ex-Midi-Pyrénées, il y a à peu près 300 lits de réanimation. Donc, on est une région qui est quand même bien dotée. Et actuellement, nous sommes à 482 lits. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu plus de 180 lits qui ont été déployés en plus sur la région, en réa, dans les établissements. Pour l'Occitanie entière, il y a à peu près dans les 400-500 lits, on va dire, établis.
Et alors, docteur Croutebail, hein, je rappelle à ceux qui nous rejoindraient que vous êtes anesthésiste réanimateur à la clinique Pasteur à Toulouse, et on fait un point ensemble sur la coopération publique-privée dans la gestion du Covid. Vous nous dites que dès la première vague et pour la deuxième, de la même manière, il y a une bonne coopération entre les deux. De quelle nature elle est, cette coopération ? Est-ce que c'est une réquisition par l'État des lits du privé ou bien une démarche de solidarité spontanée ?
Non, pas du tout. Il n'y a pas besoin d'être réquisitionné hein, par l'État, par les préfets, ni par les ARS. Hein. Tous les établissements peuvent participer au dispositif s'ils le souhaitent et si on les fait participer au dispositif. Je crois que ça a été ça peut-être qui a freiné dans certaines régions, c'est que les établissements n'ont pas été sollicités. Mais ce n'est pas une réquisition ni un ordre, c'est juste leur demander de bien vouloir, s'ils sont d'accord pour participer. C'est juste une entente, en fait, hein, entre le public et le privé.
C'est sur la base du volontariat, donc, j'entends. Hein.
Pardon ?
C'est sur la base du volontariat des cliniques privées. Hein.
Enfin, je pense que c'est ce qui s'est passé effectivement sur la première vague dans certaines régions. C'est que même si les cliniques étaient d'accord pour participer, on leur a pas demandé. Et le système public a pensé qu'il pouvait gérer tout à fait le problème sans la participation du privé. C'est une coopération, hein. Il n'y a pas besoin de réquisition.
Oui. Allez-y, je vous en prie.
Non, je disais que nous, ici, sur l'Occitanie, on a d'emblée décidé de travailler ensemble, donc de recenser les lits, de recenser les capacités de chacun. Et donc, dans les cliniques toulousaines, dans le Grand Toulouse, mais aussi sur les autres départements. Et on a pris l'option, dès le départ, de répartir en fait les malades de Covid sur tous les services de réanimation, de façon à ce qu'il n'y ait aucune structure qui soit sous tension, qui soit saturée.
Alors, on va y venir sur le moyen d'opérer. Juste un dernier mot, parce que si je vous pose la question des réquisitions, c'est parce que c'est d'un point de vue financier, et c'est souvent là-dessus que porte la mise en accusation du secteur privé, qui est parfois accusé de faire la course à l'acte. À l'heure des comptes, qui paiera la note ? Puisqu'en fait, vous me dites si je me trompe, mais toute déprogrammation d'opération pour vous est synonyme de manque à gagner. Un patient, pour dire les choses simplement, un patient en Covid, ça ne vous rapporte rien.
Pas plus que notre. C'est-à-dire que si on diminue notre activité pour s'occuper des Covid, nous, les praticiens qui font de la réanimation, on a les patients, peu importe qu'ils soient Covid ou pas, on travaille avec ça, avec eux, et on vit de ça. Mais tous les praticiens, les chirurgiens qui déprogramment leurs interventions, eux, ils se retrouvent avec un manque à gagner, puisqu'on est payé que si on travaille.
Voilà. Et comment c'est vécu, ça, par les médecins ?
Très difficilement, ça a été difficile, surtout lors de la première vague, parce qu'il y a eu de grosses déprogrammations avec des chirurgiens, certaines spécialités qui ne se sont retrouvées à ne plus travailler du tout pendant 3 semaines, pendant un mois. Donc ça a été très difficile à accepter. Mais bon, ils l'ont fait. Là, sur cette deuxième vague, on déprogramme moins. Parce qu'on a anticipé un peu, on a eu le temps de mettre en place des extensions de lits pour éviter juste pour pouvoir continuer justement ces soins hors Covid. Bien sûr, des programmes entre 30 et 40% de l'activité sur toutes les spécialités pour qu'il y ait un effort collectif. Donc c'est bien sûr un manque à gagner pour ces spécialités, mais tout le monde est solidaire et tout le monde est solidaire, en tout cas dans notre établissement, tout le monde est solidaire et tout le monde participe à l'effort parce que prendre en charge les Covid, c'est beaucoup de ressources matérielles et humaines, et donc il faut bien qu'on trouve ces ressources matérielles et humaines quelque part. Et c'est en déprogrammant les activités qu'on récupère justement ces ressources pour la prise en charge du Covid.
Et alors cette prise en charge, donc belle coopération, on insiste là-dessus parce que c'est pas si courant que ça entre le secteur public et le secteur privé, en tout cas pour l'Occitanie. Qui la pilote cette coopération ? Est-ce que vous pouvez un petit peu rentrer dans le détail, dans le parcours du malade ? Il arrive, j'imagine, par les urgences. Comment est-ce qu'il est ensuite orienté ? Qui dispatche ?
Alors, il y a une cellule territoriale de crise, de coordination de crise, pour les soins critiques, pour la réanimation, qui a été constituée donc au mois de mars, avec donc un représentant de l'ARS, des représentants administratifs, le directeur des hôpitaux de Toulouse et un directeur qui représente tous les établissements privés. Et des médecins réanimateurs de l'hôpital et des réanimateurs trois médecins de réanimation des cliniques privées. Donc cette cellule recense les disponibilités dans tous les établissements. On est en relation avec tous les services de réa et de soins et des privés ou publics de la région, de l'hémi-région. Et on a un groupe WhatsApp sur lequel tous les réanimateurs nous font un point chaque jour. Donc, nous sommes au courant de toutes les capacités en temps réel sur tous les services. Ensuite, les patients sont... la première vague, les patients arrivaient beaucoup en SAMU dans les établissements. Donc, on pouvait réguler en aval, c'est-à-dire que le SAMU, on donnait ses capacités là-haut au SAMU, et le SAMU savait qu'il fallait aller à tel endroit parce qu'il y avait de la place aujourd'hui. Voilà. Là, c'est un peu différent parce que les patients arrivent moins par le SAMU, c'est plutôt des entrées qui arrivent. Les patients qui sont hospitalisés dans les établissements parce qu'ils ont des Covid non graves, ils arrivent beaucoup par les services d'urgence. Et ensuite, au cours de leur hospitalisation, ils se dégradent et ils sont transférés en réanimation. Donc là, c'est plutôt un transfert interhospitalier d'un établissement à l'autre que l'on organise donc en fonction des capacités. Donc il y a des patients quand un établissement est sous tension, ça a été un petit peu le cas de Rodez, par exemple du CH de Rodez ces derniers jours, qui a donc transféré ses patients sur Albi. Qui, lui, était moins en tension, avait des capacités. Et ça permet donc de ne jamais laisser un établissement en saturation et de pouvoir gérer plus facilement et plus tranquillement, en tout cas pour tous, ces patients.
Et vous êtes sereine aujourd'hui ?
Oui, le dispositif a bien marche très bien. Je suis sûre qu'on va y arriver parce que il y a vraiment une très bonne coordination. Tous les établissements sont rentrés dans le dispositif maintenant. Ça se passe très bien. On arrive à bien communiquer. Je crois que tout le monde est content de la façon dont c'est fait et on en tire tous les bénéfices. Et je pense que c'est important sur la motivation, l'engagement de tous les soignants. Et donc je suis plutôt
un dernier mot, docteur, même si j'aimerais bien terminer sur cette note positive. Est-ce que vous pensez que cette coopération inédite, ce front commun face au Covid entre le secteur public et le secteur privé est de nature à enterrer définitivement, en tout cas vous avez pris conscience des façons de travailler des uns et des autres, enterrer définitivement la hache de guerre entre les deux secteurs?
Ah oui, je crois. En tout cas pour nous, on s'est découvert, c'est pour certains parce qu'on se connaissait pas. Et c'est 9 mois de travail ensemble. Je pense vont avoir des effets bénéfiques pour le reste de la vie, hors Covid.
Et ben, un grand merci, voilà, un effet positif, s'il en est, du Covid-19, la bonne coopération entre les différents services. Merci beaucoup, docteur Madeleine Croutebail. Je rappelle que vous êtes anesthésiste, réanimateur, très engagé donc, dans la lutte contre le Covid à la clinique Pasteur de Toulouse. Merci à vous.
Merci à vous.